Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Franchement dit.
Jonathan Trudeau.
Et Maud Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
1877-827-2346. Cube Radio. Cube Radio.
Alors, le gouvernement caquiste de François Legault qui veut créer une identité numérique unique pour chaque Québécois. On parle d'un projet très ambitieux. On en a discuté au début de l'émission qui soulève plusieurs interrogations parce que semble-t-il qu'on serait les premiers dans le monde à aller de l'avant avec un projet de la sorte. On parle potentiellement de milliards de dollars de fonds publics. Et ça, c'est avant les dépassements de coûts et les retards, là. Ça soulève quand même toutes sortes de questions. Oui, évidemment, sur la faisabilité du projet, les sommes et tout ça, mais entre autres sur les questions de sécurité. On va en discuter avec Damien Bancal, avec qui on a eu le plaisir de discuter à plusieurs reprises, qui est directeur du pôle de la cyberintelligence chez 8brains. On le rejoint au téléphone. Bonjour, Damien.
Bonjour.
Dites-moi, vos premières impressions, là, avoir un projet comme celui-là, d'un, est-ce que dans le milieu, vous aviez entendu dire que ça se tramait? Est-ce que c'était un secret de polichinelle et comment vous l'accueillez?
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est un projet qui est réfléchi de longue date. On retrouve des informations, voire même des propos sur différents sites de ministères, mais aussi d'entités, qu'elles soient associatives ou privées, parlant déjà de cette possibilité de gouvernance numérique, de cette identité numérique. Parce que c'est, je vais être très honnête avec vous, dans toutes les têtes, sur toute la planète. Je prends juste un exemple, hein. Au Japon, il y a une grosse société qui a déjà mis en place depuis juillet 2019 un système de gestion des identités numériques via ce fameux blockchain, hein, qui est un terme qui fait peur ou qu'on comprend pas trop. Donc ça sera pas une nouveauté, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est réfléchi depuis très longtemps. Donc au moins de ce point de vue-là, ça me rassure.
OK, mais donc, est-ce que c'est vrai qu'on serait les premiers? Parce que là, vous dites que, bon, au Japon, il y a certaines mesures déjà qui existent. Selon là les critères du projet que le gouvernement veut mettre en place, est-ce qu'effectivement ce serait une première? Ou quand on pense justement à des endroits où on exerce un bon contrôle là, sur la vie citoyenne, en Chine par exemple, est-ce que vraiment dans ces endroits-là, on n'a pas encore des projets comme ceux-là qui ont été mis en place?
Alors, c'est simple, hein. Dans tous les cas, ce suivi numérique de chaque citoyen existe dans des pays, par exemple, totalitaires, qu'on le veuille ou non, comme la Chine, hein, qui clairement a un numéro social avec des droits, etc., ou pas. Mais après, sous la forme qui est proposée là, en tout cas de ce qu'on peut en lire, de ce qu'on peut en entendre, de ce que j'ai pu, par exemple, analyser en regardant juste sur le site de Cube Radio, hein, on voit un petit peu ce qui est dit. Ça réfléchit, on comprend bien que on a une idée qu'on lance en l'air et puis maintenant il va falloir tirer sur chaque petite ficelle pour voir comment on va pouvoir identifier chaque citoyen, comment avec cette fameuse blockchain, donc c'est le moyen de rendre identifiable tout en l'anonymisant, tout en sécurisant la donnée. Donc autant dire, ça va être un NAS 3.0, hein, soyons très clairs sur le sujet. Maintenant, ouais. Il va falloir sécuriser ça, il va falloir éduquer aussi, parce qu'il faut pas oublier, hein. Je prends juste l'exemple des banques qui utilisent elles déjà ce genre de système, certes moins grande taille, mais qui existe déjà, la sécurisation par la donnée numérique. Il va falloir éduquer l'utilisateur, parce que c'est bien beau d'avoir cette identité numérique. Mais si mon utilisateur est capable de le fournir par n'importe quel moyen et que ce moyen puisse être détourné, eh bien, est-ce que j'aurai toujours confiance en la donnée qui va être sauvegardée, mon nom, mon prénom, mon adresse, plus toutes les informations qui seront cachées dans cette chaîne qui normalement n'est pas capable de m'identifier directement. C'est compliqué, hein. Je vais être très honnête avec vous.
Je vais vouloir qu'on parle, Damien, de la chaîne de blocs du blockchain dans quelques instants, mais juste avant, sur la pertinence du projet, je comprends qu'il y a des gens qui vont dire ça soulève des questions au niveau de la protection des données, du droit à la vie privée, etc. Mais en même temps, je me dis, oui, on peut être cynique là, par rapport à la capacité, ou sceptique par rapport à la capacité du Québec de mettre de l'avant des projets comme celui-là, mais en même temps, ça semble être effectivement l'avenir. Ça semble être incontournable qu'à un moment donné, on s'en va être avec notre pouce, avec nos yeux, avec notre voix, qu'on va pouvoir avoir accès à tous nos services. Vous disiez le NAS, notre numéro d'assurance sociale, nouveau genre. Il reste qu'il y a une pertinence là, dans cette idée-là, dans ce concept-là.
Non, mais je vais être très clair avec vous, je trouve cette idée excellente, parce qu'elle fait partie de demain, même d'aujourd'hui, de l'avenir, oui. En tout cas de nos identités, de la protection de mon identité. Moi, je serais beaucoup plus rassuré ici quand je pourrais fournir un code qu'un policier, par exemple, lors d'un contrôle ou de ma banque lors d'une acceptation d'un dossier, d'un contrat, ne verra pas toute ma vie parce que je lui fournis mon as ou je lui fournis ma pièce d'identité, mais cette blockchain, ce fameux code, dira « Ok, il a un bon niveau crédit, ok, il a payé toutes ses amendes s'il a eu des amendes. » Voilà, sans être obligé d'étaler l'intégralité de ma vie, qu'elle soit numérique ou de papier, parce que ben, ça peut être détourné, ça peut être usurpé, ça peut être réutilisé, ça va être très compliqué. Il suffit juste de regarder tout ce qui a été dit, fait et tenté de contrôler avec les applications Covid. Alors imaginez avec le numérique dédié à 100% à nos vies numériques.
Parlons maintenant, Damien, de la fameuse chaîne de blocs. Peut-être si on est capable de, je sais que c'est complexe, mais de l'expliquer, de vulgariser un peu pour nos auditeurs et en quoi ça pourrait sécuriser, rassurer les gens qui assurément craindraient pour notre vulnérabilité, là, la possibilité que, par exemple, des pirates informatiques réussissent à prendre possession de nos données personnelles.
Alors, je vais faire simple. On va se dire, j'ai un numéro de NAS. Trois chiffres, trois lettres, trois chiffres. Eh bien, la blockchain va, par exemple, transformer cet identifiant unique en nombre de signes, chiffres, lettres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, qui donc, si la personne a dans ses mains le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, n'a pas mon NAS directement. Mais elle sait que je m'appelle Damien Bancal, que je vis à Montréal, etc., etc. Mais c'est intéressant aussi parce que ce numéro de blockchain permettra de valider, par exemple, une signature numérique quand je vais payer mes impôts, quand je vais aller chercher ma pièce d'identité, par exemple, pour mon permis de conduire. Donc, c'est vraiment très pertinent parce que ça va sécuriser et mes données personnelles, ma vie, ma famille, mon travail, voilà. Mais ça va aussi rassurer l'interlocuteur qui sera mon banquier, qui sera, par exemple, une association qui va permettre, en demandant au gouvernement, est-ce que le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eh bien, monsieur Damien Bancal, est-il fiable? Et voilà. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Petit bémol quand même, ça veut dire qu'il va falloir centraliser tout ça. Et centraliser tout ça dans les mains d'un gouvernement, heureusement, ici, on est dans un lieu où la liberté existe. Après, on a vu ce qui s'est passé dans des pays où là, il n'y a pas du tout de démocratie. Donc, je suis quand même rassuré sur l'aspect. On a des gens qui essayent de faire avancer des choses. Certes, ce sont des politiques. Certes, ça annonce beaucoup de chiffres. Ça annonce aussi beaucoup de travail.
Ça va être intéressant de suivre ça, d'entendre également le ministre Éric Kerr expliquer son projet. Damien Bancal, donc, vous êtes directeur du pôle de la cyberintelligence chez 8Brains. Merci beaucoup de nous avoir parlé, c'est toujours un plaisir.
Merci, au revoir.
Merci à vous. Maud, je trouve sincèrement, là, au-delà du cynisme dont on a fait preuve en début d'émission, le Saint-cynisme et Saint-scepticisme, il y a quelque chose effectivement d'absolument pertinent là-dedans. T'sais, je veux dire, c'est vrai que c'est la technologie, elle est omniprésente, on reculera pas là. Ça va aller en avançant et je pense que ça passe par la capacité d'un gouvernement aussi à être à la page là. Est-ce que c'est la première chose qu'on devrait faire? Je le sais pas. Mais qu'on pense à ça, qu'on veuille s'équiper en la matière, je pense qu'on doit pas être réfractaire à ça. Moi, je pense, là-dessus, j'insiste.
Surtout si on chiale sur le fait qu'on a encore des fax, par exemple, puis qu'on veut que ça... Tu sais, on se dit, bon, il me semble que tout le monde est rendu ailleurs, sauf nous. C'est un grand pas de très grand géant, ce qu'on tente de faire avec l'identité numérique, mais c'est pas fou. Puis il y a probablement bien d'autres gens dans le monde qui pensent à faire ce virage-là aussi, puis qui travaillent sur des concepts, puis des projets, puis des lois, puis c'est juste que nous autres, ben on l'a annoncé là maintenant, puis on espère. Moi, je me croise tellement les doigts pour que ça fonctionne. Ce serait fantastique, là.
Absolument. Hey, imagine, là, t'as plus besoin d'avoir ton permis de conduire, ta carte d'assurance sociale, quoi que ce soit. Un doigt, un œil. Mais là, est-ce que vraiment on assisterait à des épisodes où quelqu'un peut se faire chopper un doigt? Ou enlever un œil? Là, il faudra que le doigt soit maintenu à une telle température parce qu'il faut que ce soit quand même assez chaud lorsqu'il touche.
Ouais, il y aura rien de louche quand tu vas sacrer le doigt sur le petit appareil quand le policier va demander votre doigt, monsieur.
Hey, parlant de, je fais juste un aparté, mais parlant de vol et de choses qu'on voit dans les films, t'as-tu vu hier la nouvelle sur le vol de lingots d'argent?
Ben oui.
C'est vraiment, vraiment hot. 20 millions en lingots d'argent, pas des lingots d'or,
non,
mais des,
20,
des lingots d'argent qui valent 20, 30 000 piastres du lingot, je pense, là.
Oui, ça fait beaucoup.
Et les voleurs sont, en ouais, sont rentrés à la salle.
Ouais.
C'était sur des palettes. Ils ont pris un jigger ou un lift, là.
Ah, oui,
un chariot
oui.
élévateur. Là, ils sont arrivés à avoir tout le
temps.
Un chariot élévateur? Quoi?
Je vais charger les moteurs.
Chariot élévateur?
Ah oui.
Tu sais, j'avais mes licences de conducteur de chariot élévateur.
Ah oui, hein?
Ah oui, quand j'étais jeune, j'étais tout un conducteur de lift. C'était tellement le fun de chauffer un lift. Voilà.
Une passion
comme
une autre. Ça me
rappelle des bons souvenirs.
Oui.
Mais ils sont rentrés là et elle disait, ouais, tu sais que c'est nous autres, on a les papiers, là, on s'en vient chercher tes palettes de lingots, là. C'est nous autres qui part avec ça. Il a dit, pas de problème, c'est bon, ça va encore avec ces papiers-là. Ils sont partis avec 20 millions.
Oui. Chaque barre pèse 30 kilogrammes. Environ 20 000 piastres par partie de barre, là.
Puis eux 10 autres, millions, excuse la valeur, j'ai dit 20, 10 millions.
Oui, 10 millions, puis tu sais, il faut que tu saches quoi faire. Il ne faut pas que ce soit nécessairement la première fois que tu essaies ça. Il faut que tu y aies pensé en maudit. Puis ce qui est le fun avec un lingot, là, c'est que ça laisse pas de traces. C'est ça qu'explique Paul Laurier, qui est un ex-enquêteur au crime informatique de la Sûreté du Québec. Ça laisse pas de traces. Tu peux en disposer sur le marché, là. Tu donnes ça à des bijoutiers, tu fais des transactions en bitcoin, ça ne laisse aucune trace. T'es juste pogné avec ça chez vous dans le sous-sol, là, mais tu sais, c'est ce qu'on t'a
fait. Ça existe vraiment, là. Non, mais c'est ça.
C'est pas juste un film, c'est ça.
Ça existe vraiment. Ouais. Lingot d'argent, lingot d'or, quelqu'un qui met sur pied un plan pour les voler.
Écoute, ça, la question.
Parce que quand tu sors de la bâtisse, là,
ouais.
Tu peux pas te sauver en courant, là. Faut que ton plan ait été suffisamment efficace pour que la personne, 30 secondes après, pas un doute, puis elle sort dehors en courant, parce que faut que tu mettes ça dans un camion ou quelque chose, là, tu transportes pas ça comme tu veux.
As-tu écouté,
peut-être chez vous.
As-tu écouté La Casa des Papels?
Ben oui, tu fais des petites granules. Là.
La Casa des Papels, eux autres, ils sortent ça, toi, en scaphandre. Ils font fondre ça, font des petites billes.
Ben oui.
C'est beau, beau, beau.
Ouais, voilà. Alors, les enjeux de sécurité autour de ce projet informatique, ça va faire parler si on est capable de voler des lingots d'or. Pouvons-nous voler nos données telles que protégées par le Cerbère Éric Kerr? Je nous sens très fragile, monde.
Ça va être fragile dans ma chronique. Oh,
mais pas t'écœurer, mon retour de la pause, c'est toi qui as le poc avec ta chronique. Oui. On va voir ce que ça va donner. Bougez pas, on revient.